Bah, merci. C'est pas la première fois que je viens ici, donc je suis content. Je dirais pas que ça devient une habitude, mais enfin, je suis content. Je suis presque en voisin. Enfin, j'habite quand même assez loin. Je suis dans les Hauts-de-Seine Sud. Mais enfin, bon, voilà. Et bon, sur un sujet qui est pas très réjouissant. J'espère que vous ne partirez pas trop déprimé, hein. Ce sujet est pas très drôle. Mais enfin, bon, c'est pas une période marrante de toute façon, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, mais on peut se remonter le moral. Collectivement, en réfléchissant et en voyant qu'il y a peut-être quand même des choses à faire malgré tout. Voilà, bon. Donc la tâche est un peu difficile, mais je vais essayer. Voilà, donc austérité, politique d'austérité en Europe. Alors, vous avez vu, les tracts sont vraiment géniaux, hein. François nous a fait, je ne sais pas combien de tracts, là, avec des petits dessins à chaque fois différents. Donc, très bien. Alors, bon, ce que je propose, c'est de faire une présentation. On dit toujours ça, puis on s'y tient pas, mais je vais quand même essayer, pas trop longue, pour que vraiment on ait le temps du débat, parce que bon, vous pouvez ne pas être d'accord ou pas comprendre ce que j'ai dit, etc. Donc, il faut qu'il y ait un échange entre nous. L'idée, c'est que vous ressortiez d'ici avec un certain nombre d'idées, puis après, pour convaincre vos collègues, voisins, amis, famille, etc., qu'il y a des choses à faire et qu'il faut réfléchir collectivement, hein, sur cette question. Alors, l'austérité, c'est les politiques d'austérité, c'est finalement, quand on regarde de près, c'est la seule arme que les gouvernements, enfin ceux qui nous gouvernent plus exactement, ont trouvée en Europe, hein, mais ça dépasse les frontières de l'Europe en fait. Mais on va se limiter à l'Europe plutôt ce soir, hein, et bien qu'ont trouvé comme parade à la crise, hein, ce qui est quand même un peu court, hein. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Non seulement c'est un peu court, mais c'est complètement inadapté et extrêmement dangereux, quoi. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail de ces... Enfin, le détail, enfin, d'évoquer ces politiques et leurs effets, pourquoi d'abord ces politiques d'austérité? C'est un peu... C'est en introduction. Bon, moi, je pense qu'on a affaire à des gens qui nous gouvernent, qui sont aveuglés, par un espèce de dogme économique qui est de croire que finalement un État ou des finances publiques, ça se gère comme les finances d'un particulier ou d'une entreprise, et qu'à partir du moment où il y a un déficit, eh ben, on tape sur les dépenses, c'est le seul moyen de régler. C'est vrai que nous, individuellement, quand on est en rouge à la banque, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on restreint nos dépenses. C'est-à-dire, c'est une réaction à peu près logique. Mais pour un État, ça n'a aucun sens. Bon, en tout cas, ça a beaucoup moins de sens. Et donc là, déjà, il y a un aveuglement et ou on pourrait dire une incompétence. C'est-à-dire un manque de vision et de compréhension de ce que c'est que l'État, son rôle dans l'économie, le budget de l'État. Donc il y a un premier. Mais il y a une deuxième raison qui montre qu'ils sont quand même pas si bêtes que ça. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a une raison, je dirais, politique. C'est qu'en fait, tu l'as dit un peu dans l'introduction, hein, tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils veulent utiliser la crise de la dette pour s'attaquer à l'État social, à l'État-providence, et pour s'attaquer, d'une manière générale, aux dépenses publiques. Donc je crois que là, il y a un projet politique très clair. Alors peut-être pas forcément de la part de tout le monde, hein, parce que bon, mais en tout cas des forces politiques et économiques qui sont derrière, c'est qu'on veut en profiter de cette crise pour vraiment donner un grand coup de ciseau, un grand coup de hache sur cet État-providence qui s'est construit depuis la guerre en particulier, ou depuis les années 30, et dont on veut la peau, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment, finalement, l'enjeu politique, c'est ça. Voilà. Donc, je fais exprès de le dire tout de suite en commençant, parce que, et pour nous, c'est vraiment, en tant que militants, en tant que citoyens convaincus que la société a besoin d'État social pour assurer la répartition, pour permettre un mieux vivre de la part des populations, et en particulier des moins favorisés et des plus fragiles, eh bien là, ils sont en train de, d'une manière absolument violente et aveugle, essayer de tuer cet État-là. Bon. Ça avait commencé avant la crise, hein. Bien sûr, la crise est le prétexte pour accélérer le mouvement. Ça avait commencé, regardez, depuis que Sarkozy est au pouvoir, mais c'était avant, bien sûr, hein, mais sous la gauche notamment. C'est qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre de domaines qui nous sont chers, hein. Et donc là, mais là, maintenant, c'est un coup d'accélérateur avec la crise. Et là, c'est encore plus violent, évidemment, dans les pays qui sont en difficulté. La Grèce, par exemple, l'Irlande, par exemple, et ainsi de suite. Bon. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais, on y reviendra, mais politique, c'est évident. Bon. Alors maintenant, la question, c'est, nous, notre analyse, Et quand je dis nous, bon, attaque, mais c'est d'une certaine manière, ça va bien au-delà d'attaque. Moi, je fais partie, par exemple, vous avez certainement entendu parler du réseau des économistes atterrés. On a fait un bouquin, un manifeste, puis on a sorti un bouquin qui s'appelle 20 ans d'aveuglement. Bon, et on rejoint, même s'il y a des différences, parce qu'on a voulu, les atterrés, c'est plus large qu'attaque, donc il y a des sensibilités un peu différentes. Hein. Mais, si vous voulez, on a voulu montrer dans nos travaux, il y a pas mal de gens d'attaque, d'ailleurs, dans ce réseau, hein, on a voulu montrer que ces politiques étaient complètement folles. Hein, complètement folles. Elles sont inefficaces. Et même, je vais essayer de vous le montrer, même du point de vue des capitalistes, hein, même du point de vue des intérêts économiques, elles sont aveugles, elles sont dangereuses, et elles sont socialement extrêmement dangereuses. Alors, socialement extrêmement dangereuses, j'ai pas besoin de vous le démontrer. Je suppose que dans votre entourage, parmi vos amis, vos voisins, peut-être vos enfants, hein, vous avez des gens qui souffrent en ce moment, qui sont au chômage, hein, qui ont plus d'allocation de chômage, par exemple, ou des gens qui ont des revenus, des petits revenus, et qui sont au bout du rouleau, hein, parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans la société actuelle. Eh bien, ça, c'est les conséquences sociales. Mais je suis économiste, personne n'est parfait, hein, et donc je vais surtout insister sur la dimension économique pour vous montrer que c'est de la, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais de la connerie. Leur raisonnement économique ne tient pas la route. Et d'ailleurs, on va le voir, certains commencent, y compris dans le camp d'en face, de s'en apercevoir. Alors, pourquoi c'est de la connerie ? C'est la connerie, excusez-moi d'être un peu, non pas ce terme que je mets entre guillemets pour choquer personne. Hein. Pourquoi est-ce que c'est la folie, en tout cas ? C'est parce que si certains d'entre vous ont lu un peu des livres d'économie ou entendu quelquefois des raisonnements économiques, ou ceux qui ont fait des études d'économie, on apprend en première année de faculté, même quelquefois en terminale ou en première, ES, on vous apprend qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène multiplicateur. C'est l'économiste qui est à l'origine de ça, c'est Keynes, dans les années 30. Qui est que quand on réduit ou quand on augmente les dépenses publiques, d'accord, ça a un effet multiplicateur sur l'économie et sur l'emploi. C'est-à-dire que vous réduisez de 10, par exemple, les dépenses publiques, eh bien, le résultat sur les revenus, ça ne sera pas 10, ça va être 30, moins 30, d'accord, et sur l'emploi, pareil. D'accord. Ça, c'est un premier résultat qui est quand même bien établi dans l'analyse économique. D'accord. Et deuxième résultat, on apprend un peu plus tard, parce que c'est un peu plus compliqué. Quand on prend non pas une économie, la France, mais on prend plusieurs économies, comme c'est le cas avec la zone euro. On a la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui de plus sont très interdépendantes. Nous faisons la moitié de nos échanges commerciaux avec l'Allemagne. D'accord ? Et de même pour les Allemands, vendent la moitié de leurs produits chez nous. On est leur principal partenaire. Les Grecs, c'est pareil, ils importent beaucoup de l'Allemagne, de la France, et ainsi de suite, réciproquement. Vous imaginez, c'est pas très difficile, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économie très poussées, que quand un pays et plusieurs pays se mettent à freiner ensemble, c'est-à-dire à faire de l'austérité ensemble, eh bien, ça amplifie les choses encore plus que s'ils étaient tout seuls, parce que, si vous voulez, nous freinons en France, donc on freine nos achats en Allemagne qui freinent. L'Allemagne, son côté fait pareil, donc elle achète moins chez nous, ça réduit l'emploi des entreprises, par exemple des PME en France, et ainsi de suite. Et c'est un effet d'amplification. Et donc, si vous voulez, le béaba de l'analyse, hein, démontre très facilement, d'une manière très standard et assez incontestable, que si vous faites ça tous ensemble, si vous freinez tous ensemble, si vous faites d'austérité tous ensemble, vous allez vers une situation catastrophique en termes d'activité économique et en termes d'emploi. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Nous l'avons dit, on a un certain nombre d'économistes, hein, mais c'était pas le seul, on était assez nombreux à dire, mais vous êtes fous, vous allez dans le mur. Si vous freinez tous en même temps, ça fait au moins 2 ans qu'on le dit, parce que ces politiques ont été mises en œuvre, en gros, à partir de 2009, hein, à partir de après la crise, hein, qui a eu lieu en 2008, en gros. Hein, ils ont freiné pour trouver des solutions. Et on a dit, mais vous allez dans le mur. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement, justement. Vous allez dans le mur. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation absolument catastrophique où on va vers une récession généralisée en Europe, mais même dans le monde, hein, aux États-Unis. Pour des raisons un peu différentes, ils ont le même problème, et avec une montée inéluctable du chômage de masse, et particulièrement chez les jeunes. Hein, chez les jeunes, déjà, en Espagne, en Grèce, en Irlande, vous avez le taux de chômage de 40% chez les jeunes, les moins de 30 ans, les moins de 25 ans. Vous voyez, quand on voit que 40% de la jeunesse qui cherche un emploi ne peut pas trouver d'emploi, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Hein. Bon. Et donc, ces politiques-là, voilà à quoi elles aboutissent. Or, ils continuent. C'est-à-dire que jour après jour, réunion internationale après réunion internationale, sommet européen après sommet européen, on en rajoute. Hein, la semaine dernière, il y avait encore un sommet téléphonique, vous avez peut-être vu dans les médias, entre Sarkozy, Merkel et Papandréou, le premier ministre grec, pour lui dire, allez, rajoutez une couche encore d'austérité parce que vous n'allez pas assez loin pour réduire votre dette. Bon. Et pour réduire vos dépenses publiques. Et donc, vous voyez que c'est vraiment de la folie furieuse. Et comment est-ce qu'on voit que ça a échoué? On peut le dire aujourd'hui que ces politiques ont échoué. Ben, prenez la Grèce, par exemple, qui est le pays dont on parle tous les jours, qui est le plus fragilisé et le plus mal en point dans cette crise, parce qu'on lui a imposé une cure d'austérité d'une violence bien supérieure à celle que nous avons, par exemple, en France, ou qui est subie dans la plupart des autres pays européens. Eh bien, la Grèce est un pays qui a une chute de son activité énorme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le produit intérieur brut, je sais bien que c'est un indicateur critiquable et contestable, mais c'est quand même un indicateur de la création de biens et de services dans un pays, moins 5% cette année, ce qui est prévu. Alors qu'au début, on avait dit, ouais, ça sera peut-être entre 0 et moins 2. Là, moins 5. C'est-à-dire que c'est d'une violence incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire quand un pays fait du moins 5? Ben, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ferment. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des emplois qui sont détruits. Et ça veut dire qu'il y a des salaires qui ne sont pas distribués ou qui sont réduits. Donc avec une catastrophe de point de vue social, tout à fait importante. Mais du point de vue de la dette, parce que l'objectif finalement de Merkel et Sarkozy est ce qu'on appelle la Troïka, vous savez, qui se réunit tout le temps. La Troïka, c'est le Fonds monétaire international, la BCE, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, ou les gouvernements européens. C'est l'exécutif européen. Ben, cette Troïka en rajoute à chaque fois en disant « allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin ». Eh bien, résultat des courses, c'est que la Grèce, ayant un taux de croissance négatif, crée de moins en moins de richesses et de revenus pour rembourser sa dette. Elle s'appauvrit d'année en année, depuis 2 ans, 3 ans. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans une contradiction totale. Ils veulent obliger un pays à faire de l'austérité pour rembourser sa dette, mais le résultat d'austérité, c'est d'abaisser la capacité du pays à rembourser sa dette, puisque ce pays se trouve dans une situation où il a de moins en moins de revenus. Vous voyez le résultat. Donc, c'est une politique qui a échoué et qui ne peut pas, si elle ne change pas, qui ne pourra pas atteindre son résultat, qui est de rembourser, permettre aux différents pays, et là, à commencer par la Grèce, de rembourser sa dette. Alors, vous avez vu la nuit dernière, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles ce matin en vous levant, bon, pour moi, c'est ce que j'ai entendu, une des premières choses que j'ai entendues en me levant, Standard & Poor's, l'agence de notation américaine, a baissé la note de l'Italie. D'accord ? Donc de AA+, AAA+, enfin peu importe, ça, d'un cran, on baisse d'un cran. C'est-à-dire que ce que dit cette agence de notation, donc dont le métier est de noter les dettes, que ce soit des acteurs privés d'ailleurs, entreprises ou bien des États, a dit, voilà, l'Italie devient plus risquée pour les investisseurs, ceux qui lui prêtent pour payer pour financer son déficit, et donc on va baisser sa note. Résultat immédiat pour un pays à qui ça arrive, comme à une entreprise, si on lui fait, c'est qu'elle va payer plus cher sa dette. C'est-à-dire que quand elle va vouloir s'endetter, au lieu de payer du 5% sur les marchés, elle va payer, par exemple, du 6%, ce qui va aggraver son cas. D'accord ? Bon. Bien. Et donc, si vous voulez, le processus est vraiment dramatique et extrêmement dangereux. Voilà. Alors, dans tout ça, pour compléter le tableau, je dirais que si avec que ça, je ne dis pas qu'on s'en sortirait, mais disons que les choses seraient maîtrisables. Peut-être, peut-être. Mais en plus de ces politiques de rigueur et d'austérité menées par les gouvernements d'une manière aveugle, il y a aussi le rôle des marchés. Les marchés qui en rajoutent une couche. C'est-à-dire que, vous avez peut-être pu vous en apercevoir, si vous avez lu les journaux, si vous avez écouté les commentaires, les marchés ont une caractéristique d'amplifier les mouvements d'une manière relativement aveugle aussi. C'est-à-dire, quand ils voient qu'il y a un problème quelque part, eh bien, par exemple, qu'un pays est un peu plus fragile, eh bien, il se rue sur ce pays pour spéculer contre ce pays, pour l'obliger à faire plus d'austérité, et donc en exigeant des primes aussi plus élevées. C'est-à-dire, on vous prête, mais ça sera plus cher. Et donc, les investisseurs, c'est les marchés, hein, parce que c'est abstrait le mot de marché, c'est les investisseurs, les fonds de pension américains, les hedge funds qui sont basés dans les îles Caïmans, ou bien à Londres, etc., qui sont là et qui vont pousser au maximum, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des rendements de plus en plus élevés. Donc, ils spéculent en jouant sur la fragilité mais ils en rajoutent. D'accord ? C'est-à-dire que le pays est déjà mal en point, mais ils en rajoutent. Moi, j'ai toujours comparé les spéculateurs à des... Vous savez, vous voyez quelquefois des films animaliers, ça vous arrive peut-être, où on voit des prédateurs, des lions, des lynx, des panthères, etc., qui, dans un beau désert, hein, cherche, court après un troupeau de zèbres, par exemple, pour, ou de girafes, pour essayer de manger. À qui ils s'attaquent en général, ces animaux? C'est aux plus faibles. D'accord? Aux plus faibles, aux petits, ou aux ceux qui sont malades ou blessés. Eh bien, les spéculateurs, c'est ça. Les spéculateurs, ce sont des prédateurs qui veulent gagner de l'argent comme font des prédateurs dans le monde animal pour, en se nourrissant d'autres animaux. Là, ils cherchent des victimes dont ils repèrent qu'elles sont plus faibles. D'accord? Et là, on va taper sur la graisse. Et quand la graisse sera à genoux, eh bien, on va taper sur le prochain sur la liste. Aujourd'hui, il semble que ce soit l'Italie, mais ça pourrait être aussi demain l'Espagne. Et ainsi de suite. Vous voyez le... Et donc, ce qui est dramatique dans la situation actuelle, c'est non seulement les gouvernements ont des politiques d'austérité aveugles, d'accord, mais en plus de cela, il y a le jeu des marchés que les gouvernements laissent, je vais y revenir, hein, laissent fonctionner en toute liberté. Il y a même une collusion, une complicité entre les élites financières et les élites politiques, de ce point de vue-là. Hein. Mais si vous voulez, laisse la spéculation faire, et donc, une spéculation qui amplifie, qui aggrave le problème. Voilà. Donc voilà le tableau que je voudrais dresser. Bon. Alors, comme j'ai dit que je ne serai pas trop long, je voudrais insister maintenant dans la dernière partie de ma présentation sur les... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou quelles sont les politiques, même sans être révolutionnaires et sans être trop radicales dans les demandes, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme politique qui éviterait qu'on s'enfonce dans la crise comme on est en train de le faire, avec des effets catastrophiques? Eh bien, il y a quatre axes, quatre changements, quatre inflexions importantes qui pourraient apporter aux politiques actuelles, qui permettraient, franchement, de sortir de la crise, ou en tout cas de sortir de l'engrenage catastrophique dans lequel on est. Je vous donne ces quatre pistes, mais il y en a certainement d'autres. Elles sont plus ou moins exigeantes, plus ou moins politiquement difficiles à mettre en œuvre, mais elles sont tout à fait à notre portée. La première, c'est la restructuration immédiate de la dette des pays qui sont les plus endettés, les plus fragiles, à commencer évidemment par la Grèce. Dans ce petit livre, par exemple, hein, des intérêts, mais aussi dans le livre sur l'attaque sur les pièges de la dette, c'est des choses qu'on explique, on dit, voilà, il y a des pays qui sont mal en point, ils sont surendettés, eh bien, on va restructurer la dette. Restructurer la dette, vous avez peut-être vu ce mot dans les journaux, ça veut dire trois choses. Trois choses, la restructuration. C'est-à-dire qu'il y a trois modalités possibles de la restructuration. La première, on va baisser les taux d'intérêt que ces pays payent. Parce que quand ils sont livrés eux-mêmes tout seuls face à la spéculation, je vous ai expliqué qu'ils payent des taux d'intérêt insupportables. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer les conditions pour que les taux d'intérêt soient plus bas. Comment? Alors, les Européens, parce que bien sûr, quand même, les Européens ne sont pas totalement inactifs, ont mis en place des procédures. On a créé un fonds européen de stabilité financière, si vous voulez, qui est abondé par les États et par le Fonds monétaire international et qui est capable de reprêter aux pays en difficulté, d'accord, et à des taux d'intérêt plus bas que les taux du marché. Donc ça, c'est déjà fait en partie. Donc ça, c'est plutôt bien. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais c'est totalement insuffisant parce que les deux autres modalités de la restructuration devraient être mises en œuvre. Quelles sont-elles? La deuxième modalité, c'est de rallonger, comme on dit, de rééchelonner la dette. C'est un peu comme les ménages. Quelqu'un qui est surendetté, un ménage qui est surendetté, on va lui dire, voilà, vous allez payer moins d'intérêts, puis surtout, vous ne rembourserez pas, non pas l'année prochaine, comme vous deviez le faire, mais on vous donne 3 ans pour rembourser. Donc, on rééchelonne. Alors là, les emprunts des États, ce n'est pas 3 ans, hein, c'est du 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. Donc, on vous dit, voilà, vous êtes endetté à 10 ans, on vous donne 20 ans ou 30 ans pour rembourser. D'accord? Alors, en général, plus vous endettez à long terme, plus vous payez les taux d'intérêt élevés. Mais là, justement, si on arrive à maintenir le taux d'intérêt à des niveaux bas, par exemple, du 2-3% au lieu du 7 ou 8 comme ils payent d'habitude sur les marchés, et si en plus on leur dit vous remboursez non pas dans 10 ans ou dans 5 ans, mais vous remboursez dans 20 ou 30 ans, ça leur donne de l'oxygène. Le pays est moins pris à la gorge. Et la troisième modalité, qui est celle qui fait le plus discussion parce que c'est la plus radicale, mais que moi je préconise avec d'autres, c'est l'annulation d'une partie de la dette. L'annulation d'une partie de la dette. Aujourd'hui, si vous voulez, la Grèce a, si je me focalise sur la Grèce parce que c'est le pays qui est le plus en difficulté, a une dette qui, par rapport à son PIB qui est de l'ordre de 160%. L'idée, ça serait de diviser ce ratio qui est insoutenable. Aucun pays ne peut honorer une dette aussi importante de moitié. C'est-à-dire de dire, voilà, il faut passer à 80%. Et déjà, 80%, c'est à peu près le niveau de la France en ce moment. Et nous, on est à 83-85. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire. Déjà, bon. Et si la Grèce paye des taux d'intérêt beaucoup plus bas, si on lui donne la possibilité de rembourser dans beaucoup plus de temps, et si on dit on vous divise par deux la dette, c'est parfait. Alors vous me direz, mais c'est peut-être une des questions qui vous vient à l'esprit, mais si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui détiennent la dette? Si on leur divise leur créance par deux, vous créez un problème. Alors, en effet, et vous en avez peut-être entendu parler, les banques françaises, les banques allemandes notamment, qui sont celles qui sont les plus engagées dans leurs prêts aux pays dits périphériques, entre guillemets, de la zone euro, comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Irlande, eh bien, nos banques, enfin, par exemple en France, c'est surtout BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, vont perdre de l'argent. C'est clair, puisque des créances qui valaient 100, on leur dit maintenant, ça ne vaut plus que 50. Donc évidemment, c'est un peu bon. Alors, par rapport à ça, quelle est la réponse? La réponse est très simple. C'est de dire, il y a tous les moyens d'éviter un effondrement des banques. Parce que ce qu'on nous dit, c'est, attendez, si vous faites ça, les banques vont s'écrouler, les pauvres Français vont perdre leurs économies dans les banques, etc. Il faut faire attention. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Le premier, et les banquiers eux-mêmes l'ont dit. Par exemple, le patron de la Société Générale, M. Oudéa, l'a dit, oh, parce que comme vous savez que la Société Générale a perdu la moitié de sa valeur en bourse cet été, donc il a intérêt à rassurer un petit peu, de dire, ben, de toute façon, c'est vrai qu'on a beaucoup de créances grecques, mais si ça nous arrive d'être obligé de perdre une grande partie de nos créances, la valeur de nos créances divisée par deux, par exemple, on peut s'en tirer, ça ne fera que nous pomper nos bénéfices de deux trimestres. Donc, en gros, Société Générale fait, par exemple, 10 milliards d'euros par trimestre de bénéfices, j'exagère un peu, hein, c'est plutôt 5 milliards, et on va perdre 10 milliards, ça fera deux trimestres de bénéfices perdus, mais on n'est pas mort. Ça nous coûte très cher, mais on n'est pas mort. Ça ne plaît pas en général à une entreprise de faire ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'entreprise, c'est ses actionnaires. Parce que, à quoi servent les bénéfices, comme vous le savez, d'une entreprise, dans ce système capitaliste dans lequel nous vivons? Les bénéfices, ils ont deux emplois. Ils sont distribués aux actionnaires, c'est ce qu'on appelle les dividendes, et où ils sont intégrés dans l'entreprise, l'entreprise les garde pour augmenter notamment ses fonds propres. D'accord? Or, nos banques, ces dernières années, depuis la crise notamment, depuis 2009-2010, ont en effet augmenté leurs profits. Je vais vous expliquer d'ailleurs un instant pourquoi et comment. D'accord? Et au lieu de garder cet argent pour se consolider face aux risques, parce qu'on était toujours dans la crise, elles ont préféré les redistribuer très largement aux actionnaires. Donc ce qui fait que les rentiers de tout poil qui détiennent les titres de Société Générale, par exemple, se sont retrouvés avec des dividendes très confortables. D'accord? Alors que c'était complètement irresponsable de la part des banques françaises de le faire, elles auraient mieux fait de garder ces fonds pour se consolider face aux risques dans lesquels elles étaient. Alors, donc vous voyez l'irresponsabilité des banques. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les banques sont attaquées aujourd'hui, nos banques françaises, par les marchés, c'est que justement, elles ont été complètement irresponsables. Elles ont redistribué trop leurs profits alors qu'elles auraient dû consolider leur bilan, comme on dit dans le langage comptable, en intégrant leurs bénéfices dans leurs comptes, pour éviter de se retrouver face à des problèmes comme elles sont, dans lesquels elles sont aujourd'hui. Mais vous savez comment les banques ont fait des profits insolents, alors même qu'on était encore en pleine crise entre 2009 et 2010? Eh bien, voilà le processus. Il y a eu plusieurs facteurs. Je ne présente que le principal. Eh bien, il y avait un circuit qui était très simple. C'est qu'elles allaient s'endetter auprès de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui avait baissé ses taux de financement des banques à un niveau le plus bas possible, 1% à peu près, 1%. D'accord. Elles empruntaient cet argent donc à la BCE à 1%, au taux modique de 1%, pour aller acheter les titres de la dette grecque qui était rémunérée à 5, 7, 10 et plus pour cent. Et c'est comme ça qu'elles ont gagné des dizaines de milliards. Comme ça. Donc en fait, elles ont financé la spéculation, leurs achats de titres, en essayant de faire monter les cours, les rendements au maximum, grâce aux largesses de la BCE. Alors est-ce qu'il faut critiquer la BCE? Oui, je pense. Il faut critiquer la BCE et M. Trichet, mais en même temps, celui-ci était piégé, parce que si il n'avait pas baissé ses taux, il y aurait beaucoup de banques qui auraient été en difficulté. Donc, il y avait une contradiction dans la politique monétaire, c'est que la BCE baissait ses taux pour éviter que les banques soient trop en difficulté, mais certaines, les plus grandes d'entre elles, en ont vraiment profité pour spéculer, grâce à ces fonds à bon marché. Et donc, aujourd'hui, pour revenir à mon histoire, si BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole perdent deux trimestres de bénéfices à cause du fait qu'on a réduit de moitié la dette de la Grèce, tant mieux. En tout cas, tant mieux. C'est l'argent qu'elles ont gagné déjà sur le dos de la Grèce. D'accord? En spéculant contre elles, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est la réponse que je donne. à ceux qui nous disent « Mais si vous réduisez la dette de la Grèce, vous allez faire s'effondrer les banques. » Non. En fait, les banques vont perdre de l'argent, mais pas tant que ça. Elles peuvent très bien absorber ces pertes. Et de toute façon, si elles ont une partie de leurs bénéfices qui est consacrée à ces pertes, à éponger ces pertes, de toute façon, c'est normal, puisque de toute façon, ces bénéfices sont dus, sont quelque part illégitimes. Ils sont dus à de la spéculation sur la dette grecque. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans mon analyse. D'accord ? Donc, premier élément, si vous voulez, la dette grecque, une mesure la plus radicale, hein, les trois mesures, c'est réduire les taux d'intérêt, rééchelonner la dette et réduire, si vous voulez, annuler la dette. Alors nous, là-dessus, on a une proposition à attaque. Mais on n'est pas les seuls. On a lancé l'idée, mais ça se fait en Grèce aussi en ce moment et dans plusieurs pays, d'un audit sur les dettes. Je vais y revenir d'ailleurs. D'un audit sur les dettes. Oui ?
Vous voulez garder les dettes liées à la spéculation ? Vous voulez pas les abolir ?
Non, mais justement, l'audit, c'est ça. Oui, non. Tout à fait. Nous, on veut qu'il soit acté qu'il y a une partie de ces dettes, justement, qui sont illégitimes, odieuses, comme vous voulez, qui sont liées à un certain nombre d'opérations, et pas uniquement la spéculation, on va y venir, qui font qu'elles ne devraient pas être remboursées. Elles ne devraient pas être remboursées de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un comité, si ça vous intéresse d'ailleurs, on pourra vous en parler plus, hein, un comité d'audit des dettes, d'accord, pour essayer de comprendre d'où viennent les dettes, pourquoi est-ce qu'elles ont explosé, d'accord, dans tous les pays, et la France, mais aussi en Grèce, en Allemagne, en Italie, etc. Et de voir s'il n'est pas possible d'annuler, y compris en France, hein, ou en tout cas de demander qu'une partie des dettes ne soit pas remboursée parce qu'elles correspondent à quelque chose qui est inacceptable, socialement inacceptable. Voilà. Donc je reviendrai sur ce point, mais vous avez eu raison de soulever, c'est un point très important. Donc vous voyez, la première mesure que nous proposons dans le court terme, c'est la question de la restructuration des dettes. Alors quand moi j'étais un de ceux, il y a déjà presque un an, à écrire là-dessus, à dire il faut restructurer les dettes. Y compris chez les économistes atterrés, on n'était pas d'accord. Maintenant, je crois qu'on est à peu près d'accord. Je crois que ça y est, alors attaque, ça fait longtemps qu'on en parle, mais dans le monde des économistes ou des hommes politiques, y compris à gauche, hein, les gens, vous allez ruiner les banques, etc. Nous, on montre que ce n'est pas du tout ce qui va se passer et que de toute façon, il faut que les banques payent, quoi. Elles ont une part de responsabilité évidente dans la crise. Il faut qu'elles passent, qu'elles contribuent au financement des plans d'ajustement, de restructuration. Bon, voilà. Alors ensuite, ça, c'est la première série de mesures que nous proposons. Alors, entre parenthèses, il faut le faire tout de suite. Il faudrait le faire tout de suite. Car plus on attend, plus ça sera difficile. Parce que vous avez entendu parler, si vous avez écouté la radio aussi, les médias, on parle du défaut de paiement de la Grèce ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est que le défaut de paiement d'un pays ? Ben, c'est quand un pays très endetté, comme le sont la plupart des pays aujourd'hui, ne peut plus aller se financer sur les marchés, si vous voulez, où ils ne trouvent pas d'argent pour payer, pour rembourser la dette qu'ils doivent. Parce que quand vous êtes très endetté, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tous les mois, vous devez emprunter pour rembourser la dette que vous devez. C'est un peu ce qu'on appelle la cavalerie, si vous voulez. Hein. Je suis endetté, chaque mois je dois rembourser 100, d'accord ? Comme je n'ai pas assez de ressources, je vais m'endetter pour rembourser ces 100. Mais si les marchés me font payer des sommes trop chères, je ne peux pas. Donc je suis en défaut de paiement. Vous voyez, j'ai une situation où je ne peux plus payer. D'accord ? Donc, en ce moment, on voit bien que la Grèce est au bord du défaut de paiement. Comment les Européens, les gouvernements européens cherchent à l'éviter ? Par exemple, la Troïka. Hein. Eh bien, c'est notamment en ayant négocié un accord qui a été notamment négocié le 21 juillet dernier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cet accord juste avant les vacances, où on promet à la Grèce une aide importante, d'accord ? Pour pouvoir, à chaque fois qu'elle aura une échéance de remboursement importante, lui prêter à des conditions suffisamment peu coûteuses pour que la Grèce ne soit pas asphyxiée. Donc on essaye d'empêcher le défaut de paiement. Mais comme ça va tellement mal en Grèce, comme sa situation économique s'est tellement dégradée, malgré les aides qui ont été décidées en Europe, elle risque de se retrouver en défaut de paiement. Voilà. Et c'est ça le sujet en ce moment qui inquiète tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que c'est tendu en ce moment ? C'est parce que cet accord du 21 juillet, il doit être, comme c'est un accord international, il doit être ratifié par tous les parlements nationaux. Donc il faut que le parlement français, allemand, espagnol, etc., le ratifie. Or, il y a des pays où ça passe assez facilement. En France, ça a été voté sans trop de problèmes. En Espagne aussi, par exemple. Mais par contre, en Allemagne, vous savez qu'il y a beaucoup de députés européens qui sont opposés à toute aide supplémentaire à la Grèce. D'accord ? Bon. Et puis, vous avez des petits pays aussi, comme la Finlande, que des pays où il y a des partis politiques souvent très assez xénophobes, hein, qui disent nous, on en a marre, on ne veut pas payer pour les autres, etc. Et donc, si vous voulez, en ce moment, il y a une difficulté, c'est que tout le monde n'a pas validé l'accord du 21 juillet, donc la Grèce ne peut pas recevoir les financements qu'elle devrait avoir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très tendu en ce moment et qu'il y a une sorte de tension entre les hommes politiques, etc., et puis aussi les marchés qui sont très inquiets, etc. Bon. Voilà. Donc, nous, on pense que la solution radicale et qui calmerait les choses et puis qui serait politiquement juste, c'est de faire de la restructuration. Voilà. Restructuration, et en particulier d'annuler une partie de la dette. Alors, moi, mon pronostic, c'est que ça se fera de toute façon. C'est que, qu'on le veuille ou non, il faudra le faire, parce que si on ne le fait pas, on va vers une... Alors, peut-être qu'ici, il y en a qui sont favorables à la sortie de la... On en parlera peut-être de la Grèce, de la zone euro, mais si... ça ne se fait pas, et si la Grèce est trop en difficulté, une des possibilités, c'est que la Grèce sorte de la zone euro. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le scénario à ce moment-là pourrait être assez inquiétant, non seulement pour les Grecs, mais pour toute la zone euro. Bon, parce que mon analyse, c'est que ça coûtera très cher aux Grecs de revenir sur leur monnaie, hein, parce que ça provoquera une crise sociale, une crise bancaire, etc., et qu'il y aura peut-être un effet de contagion. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres pays qui seront entraînés dans cette tourmente, et donc ça sera peut-être le tour de l'Irlande, puis après de l'Italie, après, etc. Et à ce moment-là, terminé, plus de zone euro. Alors, si on pense qu'il faut supprimer la zone euro, on peut dire tant mieux, c'est ce qu'il faut qu'il se produise, mais si on croit que, malgré tout, l'euro peut avoir un rôle à jouer, c'est l'inquiétude. Voilà. Donc, voilà cette idée de restructuration, pourquoi elle est si importante. C'est pour casser cet engrenage dans lequel on est en ce moment, et qui est extrêmement dangereux. Deuxième mesure. Oui.
Qui est-ce qui peut décider les trois points que vous avez évoqués de la restructuration ?
Dans le cadre d'une négociation.
Mais à quel niveau ? Entre les gouvernements ?
Il faut que se réunissent autour d'une table les gouvernements, les créanciers. Les créanciers, c'est qui ? C'est les banques principalement, les investisseurs. Et quand je dis les gouvernements, bon, il y a les gouvernements créanciers et puis il y a les gouvernements débiteurs, enfin, ceux qui, comme la Grèce par exemple. Donc on se met autour d'une table et on négocie. D'accord ? C'est-à-dire on dit voilà. On va trouver une solution. Et par exemple, pour la dette grecque, on va dire, s'il s'agit de la Grèce, on passe l'éponge, hein, c'est-à-dire on réduit votre dette de tant pour cent. Vous n'aurez pas à rembourser tant pour cent. Voilà. Et ça, c'est une négociation. Et cette négociation ne peut prendre part que si vraiment il y a une volonté politique des gouvernements de le faire. Parce que les banques, elles ne voudront pas. Évidemment, elles vont perdre trop d'argent. Hein, donc elles ne le feront pas Vous voyez, alors, pour vous donner juste une... Parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais le 21 juillet, hein, cette fameuse accord que Sarkozy a présenté comme étant un accord historique qui avait sauvé définitivement l'Europe, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas en ce moment, mais bon, eh bien, pour vous montrer à quel point les gouvernements sont faibles à l'égard des banques, ils ont dit « les banques feront des contributions volontaires ». Donc déjà, à l'époque, avant, on disait les banques « non, vous n'allez rien payer, c'est les contribuables qui vont payer, qui vont rembourser, vous inquiétez pas, braves gens ». Mais maintenant, ils se rendent compte que quand même, notamment sous la pression d'ailleurs des opinions publiques, hein, il faut que les banques quand même participent à l'ajustement et donc acceptent de faire des pertes sur des créances qu'elles ont, dans lesquelles elles sont un peu responsables de la situation hein, quand même, par leurs opérations spéculatives. Donc. Mais les banques ont dit, nous, on fait une contribution volontaire. C'est nous qui décidons de combien on va accepter. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit volontaire. C'est pas sérieux. Il faut que ce soit obligatoire. C'est-à-dire qu'on réunit les banques. Il faut que des gouvernements forts et courageux qui disent voilà la situation, il faut réduire de moitié la dette grecque, donc vous banquiers, voilà ce que vous allez perdre, et c'est comme ça. Ok ? Alors, on reviendra, si vous voulez, sur des détails, parce que c'est vrai que c'est un épisode, c'est tellement riche, il y a tellement d'événements possibles, je ne développe pas plus pour le moment. La deuxième mesure, après la restructuration, qui nous semble être de nature à... Et vous allez voir qu'on va beaucoup en parler, je pense, dans les mois qui viennent, notamment dans le cadre de la campagne électorale française. C'est ce qu'on peut appeler la question de la réforme fiscale. Deuxième grand sujet, la réforme fiscale. Alors, voilà de quoi il s'agit. Nous disons que dans tous les pays, que ce soit la Grèce, la France, l'Italie, etc., le problème des déficits publics et aussi des dettes publiques, il se situe beaucoup moins du côté des dépenses publiques qui seraient excessives que du côté des recettes. Les recettes, c'est les impôts. Les principales recettes des États, c'est les impôts. Donc l'État, c'est quoi le budget d'État ? C'est les dépenses d'un côté, hein, par exemple pour construire des routes, pour payer les fonctionnaires, etc. Et du côté des recettes, c'est essentiellement les impôts, la fiscalité. Nous disons que, en France par exemple, mais en Grèce aussi, quand on regarde comment les dépenses publiques ont évolué, il y a eu des abus. C'est clair. Notamment en Grèce, il y a de la corruption. Il y a aussi, par exemple, des dépenses militaires scandaleusement élevées. Vous savez que c'est le pays qui a le niveau de dépenses militaires par rapport à sa richesse nationale, par rapport à son PIB le plus élevé d'Europe. D'accord ? Et d'ailleurs, qui lui vend les dépenses militaires ? Les matériels militaires, la France et l'Allemagne, les sous-marins allemands, les avions français. Bon, donc tout ça n'est pas totalement désintéressé. D'accord ? Donc, c'est un pays qui doit maîtriser mieux ses dépenses. Bon. Mais quand on regarde l'Europe, que ce soit la France, encore une fois l'Italie, les Grèces, l'Irlande, etc., on s'aperçoit que notre analyse, c'est que le gros problème, il est plutôt d'écouter les recettes. C'est-à-dire que les gouvernements ont subi un processus d'érosion fiscale, d'évasion fiscale extraordinairement important depuis au moins 2 ou 3 décennies, c'est pas d'hier, qui fait que les rentrées fiscales ont tendance à croître moins vite que l'activité économique, d'accord ? Et que du coup, c'est ça qui tend à amener des déficits structurels, hein, puisque à dépenses données, si vous avez moins de recettes, vous allez avoir un déficit qui s'accroît, hein, c'est comptable, c'est mathématique. Voilà. Et donc, si vous voulez, notre diagnostic, mais on n'est pas le seul à le faire, hein. Par exemple, pour la France, les rapports annuels de la Cour des comptes, qui audite les comptes français, donc un organisme tout ce qui est plus officiel, année après année, explique qu'il y a un manque à gagner fiscal considérable, d'accord, et que c'est ça qui est en grande partie à l'origine des problèmes de finances publiques. Je vous donne un chiffre, hein, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes, donc celui qui est sorti il y a quelques mois, donne le chiffre suivant, c'est qu'il explique que pour la France, il y a un déficit fiscal, c'est-à-dire un manque à gagner fiscal à cause de toutes les niches fiscales, de toutes les déductions fiscales, qui est estimé à peu près à 70 milliards d'euros par an, en ce moment, 70 milliards, dont plus de la moitié, je crois que c'est 39 milliards, quelque chose comme ça, uniquement des niches, enfin des déductions pour les sociétés, au titre de l'impôt sur les sociétés. D'accord ? Bien. Et par ailleurs, cette même Cour des comptes, a expliqué que les deux tiers ces dernières années, hein, depuis le début des années 2000 à peu près, les deux tiers de la montée de la dette publique s'expliquent précisément par cette logique des manques à gagner fiscaux. D'accord. Donc clairement, vous voyez, ça n'a rien de subversif. Enfin, c'est une organisation tout ce qu'il y a de plus officielle et sérieuse. Hein. Philippe Séguin, qui n'était pas spécialement à gauche, qui était le dernier, qui est mort là, comme vous savez, hein, comme il était président de la Cour des comptes, son dernier rapport était au vitriol, justement, à ce sujet. Et puis après, il y a eu Didier Migaud qui a été nommé, qui est un socialiste, mais un socialiste extrêmement modéré. Bon. Et si vous voulez, ce rapport de la Cour des comptes, vous pouvez aller le voir sur Internet. Hein. C'est extrêmement facile à aller le voir. Vous tapez www.courdescomptes.fr, quelque chose comme ça. Vous allez le retrouver, vous allez très vite voir le sommaire. Et vous trouverez très vite les passages. Hein. Où c'est expliqué, c'est très lisible. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour ça. Hein. C'est, tout le monde peut lire ça. Et il donne les chiffres, hein, très clairement. Donc, si vous voulez, dans le cas de la France, c'est évident, d'ailleurs on en parlera certainement beaucoup pendant la campagne électorale, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui évident, c'est qu'une grande partie des problèmes de fiscalité, de finances publiques dans un pays comme la France, c'est dû au manque à gagner du côté fiscal, à toutes les niches, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les niches. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias depuis 2 jours, on parle de l'impôt, du crédit recherche. Donc, les entreprises qui font de la recherche et développement, donc des dépenses de recherche et développement, qui sont en principe bonnes pour le développement à long terme, hein, les innovations, etc., peuvent déduire une partie de leurs dépenses de recherche. Donc, moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est pourquoi pas. Sauf que quand vous regardez très près, ce que dit la Cour des comptes, c'est que c'est un moyen d'évasion fiscale extraordinaire, cette niche. C'est-à-dire qu'on autorise les entreprises à déduire leurs dépenses de recherche, mais elles en profitent en maquillant leurs comptes pour faire passer sous le sceau de dépenses de recherche et développement, beaucoup de dépenses qui n'en sont pas. Donc là, il faut serrer les boulons quand même. Il peut y avoir des décisions qui sont bonnes, mais la manière dont elles sont appliquées, c'est quelque chose de scandaleux. Mais quittons la France, parce que vous allez croire qu'il n'y a qu'à France qui est comme ça, mais non. Vous prenez la Grèce. Revenons à la Grèce. La Grèce est un pays qui se caractérise par la présence de ce qu'on appelle un secteur informel très important. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur informel dans un pays ? C'est un peu comme en France, tout le secteur informel du travail au noir. C'est-à-dire c'est tout un secteur de l'économie qui échappe à l'économie officielle et donc à la fiscalité. En Grèce, il a été calculé qu'il y a un tiers du PIB, de la richesse nationale produite chaque année, qui est dans le secteur informel et qui échappe à l'impôt. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers de l'activité qui devrait donner lieu à des rentrées fiscales au titre de la TVA, au titre de l'impôt sur les sociétés et autres, ou de l'impôt sur les revenus, qui n'est pas fiscalisé. Alors, là-dedans, il y a des choses très très différentes. Par exemple, vous ne savez pas que l'église orthodoxe grecque ne paye pas d'impôts. Elle a le plus gros patrimoine foncier, elle ne paye pas d'impôts. Alors, ce que répondent les Grecs à ça, enfin les Grecs, ils disent, mais c'est un compromis qu'on a trouvé, un compromis politique entre l'État et l'église grecque. Donc, pour avoir la paix, pour que tout le monde s'entende bien, eh bien les gouvernements ont dit, à l'église orthodoxe, vous ne paierez pas d'impôts sur les revenus que vous tirez de vos propriétés, sur les plus-values et autres. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Dans une démocratie moderne, c'est que l'impôt doit être payé par tout le monde, y compris par les églises ou par n'importe qui. Et donc, qu'il y ait un tiers de l'activité économique qui échappe à la fiscalité, eh bien ça, c'est très facile de comprendre que c'est ça qui est à l'origine, en grande partie, du mauvais état des finances publiques grecques. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est la principale cause, vraisemblablement. Et donc, clairement, la Grèce, comme la France, pour des raisons évidemment assez différentes, les pays ont des histoires, des contextes politiques, etc., assez, assez différents, mais c'est le cas. L'Irlande, maintenant, qui est le pays qui a eu une crise il y a 6 mois, comme vous le savez. Ben, vous savez, l'Irlande, qu'est-ce qui la caractérisait? C'est un pays qui était le champion de la concurrence fiscale. C'est-à-dire, pour attirer les investissements, les sièges des entreprises à Dublin et ailleurs, ils baissaient au maximum l'impôt sur les sociétés. Et donc, ils avaient un taux d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 12%, je crois, alors que le niveau moyen en Europe, c'est 30%. Ils faisaient de la concurrence fiscale. Ça, c'est inadmissible, parce que c'est ça qui fait qu'après, nos entreprises se délocalisent. Évidemment, elles vont aller à Dublin plutôt qu'à rester à Paris si elles payent 3 fois moins d'impôt sur les sociétés, évidemment. Et donc, ça aussi, c'est une réforme fiscale qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que les pays européens, à des degrés divers, mettent à plat le système fiscal. Donc, nous disons... C'est quelque chose qui va de pair avec la démocratie moderne. C'est une question de bien vivre en Europe. C'est que tout le monde paye des impôts, que les impôts soient bien répartis et qu'ils soient équitables. Bon. Donc c'est ça la réforme fiscale et c'est ça le problème de la dette publique. Voilà. Et ça, c'est important de tenir ce langage. Pourquoi? Parce que ça permet d'allumer un contre-feu aux politiques d'austérité. Parce que qu'est-ce que c'est que les politiques d'austérité? C'est souvent baisser les dépenses. Baisser les dépenses sociales, réduire les subventions aux hôpitaux, réduire le nombre de fonctionnaires, le nombre d'enseignants, etc. Bon, eh bien, nous on dit, mais non, le problème, par exemple dans un pays comme la France, il n'est pas là. Il n'est pas du côté des dépenses, parce que nous avons besoin de ces dépenses, nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin suffisamment d'enseignants, etc. En revanche, il est du côté des dépenses fiscales, ou ce qu'on appelle le manque à gagner fiscal. Et là, toutes les niches, y compris le fameux bouclier fiscal de Sarkozy, tout ça, ça doit être supprimé. Et là, on aura des finances publiques qui redeviendront saines. Voilà. Donc, je pense qu'on doit se battre, tant au niveau français qu'au niveau européen, pour cette question de la fiscalité. C'est une question d'efficacité économique, mais aussi de justice sociale. Voilà. Troisième, donc, la première mesure, c'était la restructuration. Deuxièmement, la réforme fiscale. Hein, et troisièmement, ce que nous appelons attaque, désarmer les marchés. Alors ça peut paraître quelquefois un peu faire sourire quand on dit, les gens disent, mais qu'ils sont. C'est comme si vous disiez supprimer la spéculation, les gens rigolent aux éclats. Certains, là, j'étais à une réunion tout à l'heure, quelqu'un me disait ça, me disait, ah, tu es toujours pour supprimer la spéculation, en rigolant aux éclats. Je dis, oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on dit plutôt désarmer les marchés. C'est-à-dire, en fait, que comme je vous l'ai expliqué, ce qui pose problème aujourd'hui, y compris au gouvernement, c'est qu'ils sont sous la pression des marchés permanents, qui spéculent contre leurs dettes, et qui les pousse sans arrêt à en faire plus en matière d'austérité, etc. etc. Si on n'a pas les moyens de réduire la pression des marchés, les gouvernements seront toujours dans cette situation où ils devront rassurer les marchés, comme on dit. Et nous, notre mot d'ordre, c'est plutôt que de rassurer les marchés, désarmer les marchés. C'est quoi désarmer les marchés? Eh bien, c'est par exemple interdire un certain nombre d'opérations qui sont de nature purement spéculative. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais je peux donner un ou deux exemples. C'est par exemple... interdire l'utilisation de certains marchés, qu'on appelle les marchés, peut-être vous avez entendu parler de ça, les marchés de gré à gré, bon, qui sont les marchés produits dérivés, c'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler des CDS, les crédits default swap, qui sont les instruments numéro 1 de la spéculation, Eh bien, l'idée, c'est soit de les réduire fortement, soit carrément de les interdire. Et ce qui, aujourd'hui, certains nous disent, vous êtes fous, c'est impossible, etc. Mais maintenant, les gens se rendent compte que les CDS font tellement de mal comme instrument de spéculation qu'il y a des gens raisonnables, qui étaient avant opposés, qui se rendent compte qu'il faut peut-être en passer par là. Un deuxième exemple, parce que ça a été décidé cet été, alors qu'avant on nous disait c'est impossible de le faire. Ça a été décidé, mais temporairement. Un des moyens de spéculer, le plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ventes à découvert. Une vente à découvert, c'est de vendre un titre que vous allez vendre demain à quelqu'un, mais que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous n'avez pas en votre possession, donc vous êtes à découvert. C'est-à-dire, je vous vends, par exemple, pour l'équivalent de 100 millions d'euros de titres grecs, à tel prix demain, mais je ne les ai pas. Alors, pourquoi, en deux mots, pourquoi c'est rentable, une opération comme ça, pour un spéculateur ? Un spéculateur qui joue à la baisse. Par exemple, des titres qui valent 100 aujourd'hui, d'accord, dont il pense qu'ils vont baisser demain, d'accord, qui vont, par exemple, baisser à 80. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va essayer de les vendre à la baisse, mais par exemple, non pas à 80, mais il va essayer de les vendre à 90. D'accord ? Alors, il va trouver en face de lui quelqu'un qui dit, bon, ben, très bien, je vous les achète dans 3 mois à 90. Et la personne qui fait ça se dit, ben, je vais gagner de l'argent, je suis très content, parce que cette dette qui vaut 100 aujourd'hui, ça me coûtera moins cher dans demain. Donc, je suis très content. D'accord ? Sauf que si l'anticipation du spéculateur est bonne, et il fait tout pour que ça se réalise, dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe ? La dette aura peut-être baissé à 100, à 80. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, comme il ne l'a pas, il va l'acheter à 80 pour la revendre à 90. Et il aura fait du profit. Et son action, je ne sais pas si je suis assez clair, son action contribuera à pousser vers le bas le prix de la dette grecque, donc à faire en sorte que la spéculation s'acharne encore plus. Ben, les ventes à découvert ont été interdites cet été, en France, en Allemagne, notamment par l'AMF en France, et l'autorité des marchés financiers. D'accord ? Et ils ont décidé d'interdire pendant 3 mois. Je crois que c'est ce qu'ils ont décidé au mois d'août, quand il y a eu cette fameuse vague de spéculation contre les banques françaises. Sauf que, d'abord, c'est du temporaire. Bon, c'est mieux que rien. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'avant, on nous disait c'est impossible.
Sur certaines valeurs,
oui, vous avez raison. Mais on nous disait, mais vous n'y pensez pas. Interdire les ventes à découvert, mais c'est impossible. C'est techniquement impossible. Ils l'ont fait. Ce qui prouve bien qu'ils étaient sacrément hypocrites. Sauf que nous, on leur dit, vous avez raison, il faut le faire sur toutes les valeurs, ou en tout cas les valeurs qui sont sujettes à la spéculation, par exemple les dettes publiques. Et deuxièmement, il faut le faire de manière définitive et non pas temporaire. Bon, mais enfin, vous voyez. En tout cas, par cet exemple, ces exemples que je vous prends, c'est la preuve que quand les gouvernements le veulent, alors là, ils étaient pris à la gorge, hein, ils l'ont fait comme ça, ils le font. Et ils nous disent en général que ce n'est pas possible, mais ils le font. Donc ça veut dire que politiquement, tout est affaire de volonté politique. Donc voilà l'idée de désarmer les marchés, c'est-à-dire créer une situation où il ne s'agit pas nécessairement de supprimer les marchés. Donc, il y a des économistes en France, comme Frédéric Lordon, que beaucoup connaissent ici peut-être, qui a beaucoup de talent d'ailleurs, qui dit, lui, carrément, il faut supprimer la bourse. Bon, on peut dire ça. Pourquoi pas ? Moi je ne vais pas jusque-là, parce que quand on dit ça, après, les gens vous disent, mais bon, ils rêvent, quoi. Ils nous proposent quelque chose, c'est pas réalisable. Non, moi, je dis, peut-être qu'il faut supprimer la bourse, mais sans aller jusque-là, il suffirait de prendre un certain nombre de mesures très précises, comme celles que je viens d'indiquer, et ça rendrait la spéculation beaucoup moins forte, et donc la pression sur les gouvernements beaucoup moins forte. Donc voilà la troisième série de mesures, c'est de désarmer les marchés. Et vous allez voir que si la crise s'approfondit, ce qui est malheureusement très probable, les gouvernements vont être acculés à prendre des mesures de ce type-là de plus en plus. Ils nous disent c'est pas possible, mais ils vont le faire. Bon, je développe pas plus ce point. Le dernier point que je voudrais développer, je l'intitule une autre politique économique en Europe. Alors c'est peut-être le point qui apparaît le plus ambitieux, mais vous allez voir, il n'est pas tant que ça en fin de compte. Donc vous voyez, je me situe maintenant, je suis dans la zone euro en particulier. Oui.
Vous ne voulez pas récupérer la planche à billets à vous lire la loi Pompidou fiscale et l'article 54.
Alors, j'en ai pas parlé, mais on peut la mettre dans la liste. Vous avez raison, on viendra dessus si vous voulez. Pour le moment, je ne l'ai pas mis, mais je vous dis, je me limite à 4 séries de mesures qui me paraissent très importantes, mais vous avez raison. Là, on pourrait revenir sur cette question de la création monétaire si vous le voulez. Je le fais pas, non pas parce que je ne suis pas d'accord, mais parce que bon, je préfère prendre des mesures qui peut-être me paraissent aujourd'hui, d'abord, dont on parle un peu moins. Et qui peut-être sont essentielles. Alors, ce que j'appelle une autre politique économique, voilà de quoi il s'agit. Ça peut paraître un peu, encore aussi, un peu utopique. Et là, je vais me référer à un des grands économistes de l'après-guerre, enfin plutôt de l'entre-deux-guerres, qui s'appelle Keynes. Bon. Keynes a écrit un livre qui s'appelle La théorie générale en 1936, après la grande crise de 1929. Bon. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'époque à comment faire pour sortir d'une crise comme la grande crise de 29. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a négocié des accords internationaux, comme vous avez entendu parler peut-être de Bretton Woods, l'accord qui a redéfini le système monétaire international, il est arrivé avec des propositions. Et voilà l'idée toute simple de bon sens, qui est la suivante, et que je verrais bien appliquer aujourd'hui en Europe, enfin, qui me paraîtrait raisonnable d'appliquer. Il dit, on ne peut pas vivre en harmonie entre pays, que ce soit dans la zone euro ou même dans le monde, s'il y a trop de déséquilibre entre les pays. C'est-à-dire s'il y a des pays qui sont très excédentaires, trop déficitaires. Bon, une remarque de bon sens, mais peut-être il faut me dire, c'est que les déficits des uns sont les excédents des autres. C'est-à-dire s'il y a un pays qui est très en déficit, comme par exemple la Grèce, c'est que quelque part en face, il y en a un autre ou il y en a plusieurs autres qui sont très en excédent. Quand je dis en excédent, je parle des échanges extérieurs. C'est-à-dire qui ont beaucoup plus d'exportations que d'importations pour les excédentaires et inversement pour les pays déficitaires. Bien. Ce que disait Keynes à l'époque, il dit, c'est que quand il y a des déséquilibres dans une zone, sont aussi responsables de ces déséquilibres les ceux qui sont en déficit que ceux qui sont en excédent. Il n'y a pas de raison de dire ce sont ceux qui sont en déficit qui doivent s'ajuster et pas les autres. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire cette idée très simple appliquée à la zone euro ? Ben, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la Grèce, ce n'est pas uniquement l'Espagne, ce n'est pas uniquement l'Italie qui doivent s'ajuster aujourd'hui, qui sont en déficit extérieur, à l'intérieur de la zone euro, c'est-à-dire qui ont plus d'importations que d'exportations, ce sont aussi les pays en excédent. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, tous ces pays-là. Et qu'il n'y a pas de raison de faire porter l'essentiel du fardeau de l'ajustement par des politiques d'austérité encore plus violentes sur ces pays-là. D'accord ? Il faut que tout le monde s'ajuste. C'est-à-dire que les Allemands, comme les Grecs, comme les Français, tout le monde doit s'ajuster. Sauf que comme on n'est pas dans la même situation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ben, les pays qui sont excédentaires, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme l'Autriche, qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent ? Il faudrait qu'ils décident d'augmenter notamment les salaires, d'accord, de manière à relancer leur activité économique, notamment ce qui permettrait, entre parenthèses, de relancer l'emploi, parce que vous savez que l'Allemagne a subi une cure d'austérité, depuis le chancelier Schröder, très importante, depuis 10 ans, hein, et du coup se mettrait à acheter dans le reste de l'Europe, donc les produits grecs, hein, les produits français, etc., bon. Et donc, ça voudrait dire que chacun doit faire un effort en fonction de sa situation économique. D'accord ? Donc, les pays déficitaires, en effet, il faut qu'ils fassent attention pour être plus stricts sur leurs finances publiques et aussi la gestion de leur économie, c'est sûr. Mais il ne faut pas que ce soit eux seuls qui portent, vous voyez, l'ajustement. Il faut que ce soit les pays excédentaires de leur côté ajustent dans l'autre sens. Et c'est ça ce que ça devrait être la vraie politique en Europe. C'est qu'il faudrait qu'il y ait des politiques qui soient coordonnées et qui tiennent compte des différences de situation entre les pays. Or, aujourd'hui, que disent les Allemands, les Autrichiens et les Pays-Bas, qui sont les grands pays excédentaires ? Ils disent, nous, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas à nous de nous ajuster. Vous vous débrouillez, nous, on veut que vous fassiez comme nous. Et on veut que vous soyez aussi vertueux que nous. Mais on dit, si tout le monde est vertueux, tout le monde va crever. Parce que si tout le monde se met à freiner, justement, à avoir une politique d'austérité, comme je disais au début, tout le monde va crever. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des politiques différenciées dans la zone euro. Alors, ça, c'est quelque chose qui est une idée qui est simple, qui a été développée dans l'après-guerre, notamment, et qui a été mise en application. Hein. Il faut refaire pareil dans la zone euro. Si la zone euro ne fait pas ça, elle va s'effondrer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un ajustement qui prend en compte la situation spécifique de chaque pays, ceux qui sont excédentaires, ceux qui sont déficitaires, avec des mesures de politique économique différenciées, on s'effondre. Alors vous me direz, mais les Allemands ne vont jamais accepter. Alors c'est par là que je voudrais peut-être terminer. Je voudrais terminer par ce que j'appellerais les conditions politiques d'application, en quelque sorte. Est-ce que les mesures que je viens de vous proposer auraient un jour une chance d'être appliquées ? Alors moi, je pense que ça peut vous paraître très utopique, hein, les quatre séries de mesures que je viens de proposer. Restructuration, réforme fiscale, la troisième, c'est désarmer les marchés. Troisième, faire des politiques plus équilibrées, etc. Bon. Mais ce que je pense, c'est que si ce n'est pas fait, si ce genre de politique, il y en a d'autres, hein, comme celle que vous avez mentionnée, n'est pas mise en œuvre, c'est certain, la zone euro implose. Donc, ou bien on pense qu'il faut que la zone euro implose parce que de toute façon, elle est foutue et qu'elle fonctionne sur des bases inacceptables. Ça, c'est une vision, moi, que je n'ai pas, mais que je peux comprendre. D'accord ? Ou bien, si on dit qu'il faut préserver la zone euro, mais pour qu'elle fonctionne bien, de manière acceptable, il faut la réformer de l'intérieur. C'est les deux scénarios possibles, il n'y en a pas d'autres. Donc, on peut choisir. Voilà. Et donc, pour que ces réformes que j'appelle de mes voeux, qui permettraient à la zone euro de fonctionner et de fonctionner normalement et d'une manière satisfaisante, hein, eh bien, à ce moment-là, il est clair qu'il faut qu'il y ait des conditions politiques qui soient réunies. Et c'est là qu'on voit que j'aurais deux idées à développer devant vous. La première, c'est clair qu'il faut que les mouvements sociaux et politiques évoluent et fassent une pression sur les gouvernements pour qu'ils mènent en œuvre ces politiques. C'est-à-dire que si en Espagne, en Grèce, en France, en Allemagne, il n'y a pas un minimum de mobilisation sociale, alors les syndicats, la société civile, certains partis politiques, etc., ne se mobilisent pas, hein, que ce soit par des luttes, des manifestations, des mouvements, comme il y en a en Espagne, hein, par exemple, les indignés, ou bien, comme il y en a en Grèce aussi, des mouvements importants, ou bien, au moment d'élections, par des changements de gouvernement, à ce moment-là, rien ne se passera. Bon. Mais, et c'est là que peut-être je vais vous surprendre, c'est que l'autre élément d'espoir, enfin de la pensée que peut-être les choses peuvent bouger, c'est que j'ai pas mal de contacts avec des économistes allemands. J'étais encore ce week-end à une réunion là, avec des économistes européens, il y avait des Allemands avec qui j'ai pu discuter. Évidemment, c'était plutôt des Allemands progressistes. Hein, mais ils me disaient la chose suivante. Ils disaient, on constate qu'en Allemagne, en ce moment, il y a une prise de conscience dans l'opinion, et pas n'importe quelle partie, frange de l'opinion, dans les milieux d'affaires. Dans les milieux d'affaires. Que si la politique actuelle d'austérité continue, tout le monde va y perdre, et eux les premiers. Pourquoi ? Parce que si la Grèce s'effondre, si la France est de plus en plus mal, si l'Italie est de plus en plus mal, comme les Allemands font les deux tiers de leur surplus extérieur avec ces pays-là, eux-mêmes ils crèvent. Eux-mêmes sont en difficulté, en tout cas, en très grande difficulté. Et donc aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qui fait qu'une frange de l'opinion, qui pèse quand même dans les... est en train, semble-t-il, de bouger. Il paraît que cet été, il y a eu plusieurs appels dans les journaux, pleine page, du type signé par à la fois des politiques, du genre, c'est pas une référence pour moi, hein, Schröder, par exemple, des hommes d'affaires, mais aussi des syndicalistes, tout ce monde-là mélangé, en disant, des Allemands, hein, en disant, il faut sauver l'euro. Il faut sauver l'euro, et il faut changer de politique. Et donc, l'idée, c'est que probablement, il y a une évolution de l'opinion qui va faire bouger les gouvernements. C'est-à-dire que si Mme Merkel fait la politique qu'elle mène en ce moment, c'est qu'elle pense que la majorité des Allemands sont contre une aide à la Grèce, sont contre dépenser plus d'argent pour soutenir l'euro. Mais si elle s'aperçoit qu'il y a une frange croissante de l'opinion du monde syndical, du monde des business, etc., qui commence à se dire « oulala, si on continue comme ça, on va dans le mur », alors là, ça bougera. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il est, probable, c'est une hypothèse, hein, je peux me tromper complètement, c'est l'hypothèse optimiste que je veux, bien sûr, je suis plutôt optimiste de tempérament, il est probable qu'il y ait une prise de conscience dans un certain nombre de pays, hein, il n'y a pas qu'en Allemagne, mais en Allemagne en particulier, sur cette idée que ces politiques-là sont dans l'impasse. On le voit, il n'y a aucun résultat, la Grèce est en cessation de paiement, les politiques d'austérité n'ont donné aucun résultat. Au contraire, elles ont aggravé la situation. Il y a des mouvements sociaux qui commencent à bouger, donc ça aussi, ça affole un petit peu certains gouvernements. Hein. Donc l'idée, c'est que peut-être, il va se passer quelque chose, mais ça, évidemment, c'est dans le sens d'un changement des politiques, d'une évolution des politiques. Mais c'est évidemment, je reconnais une hypothèse très optimiste, enfin, assez optimiste. Je comprendrais très bien, vous me disiez que je rêve ou que je suis très optimiste, mais je pense que ce n'est pas à exclure. Voilà. Autrement, c'est clair que si rien ne se passe, c'est-à-dire si on reste avec les politiques actuelles, avec le rapport de force actuel, eh bien, on a une situation dans laquelle on va vers un effondrement inéluctable de la zone euro. Voilà, c'est clair. Donc, tout va se jouer dans, je pense, les rapports de force politiques et sociaux qui vont se nouer dans les prochains mois, à l'occasion d'élections, mais aussi à l'occasion d'affrontements, hein, très importants qui vont se produire, qu'on voit déjà se produire dans les pays. Voilà. Et c'est ça qui va probablement être l'élément déterminant de l'évolution de la situation. Mais peut-être que, comme on dit quelquefois, le temps politique est trop long ou trop lent, le temps social aussi, c'est que tout ça, ces mobilisations vont se faire, mais peut-être vont prendre du temps, et que le temps des marchés et le temps de l'économie folle, hein, de la finance, etc., est tel qu'ils auront détruit avant que des réactions, entre guillemets, positives se produisent, ils auront détruit la construction européenne avant. C'est très possible. Ça, c'est aussi ça, c'est le scénario pessimiste. Et qui, aujourd'hui, peut apparaître plus probable quand on voit ce qui se passe. Hein. Mais bon, comme on dit, le pire n'est jamais sûr, mais c'est aujourd'hui ce qui semble se dérouler sous nos yeux. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Hein. Donc, on est vraiment dans une impasse au niveau des politiques, c'est évident. La situation est complètement... si ça ne change pas, on va vers une crise qui va durer et inéluctablement vers un effondrement de la construction européenne. Ça, c'est certain, ça ne pourra pas durer comme ça. Hein. Là, on atteint la limite. On atteint la limite. Hein. Et nous, ATTAC, bon, ça fait... avant l'été, on avait déjà écrit ça, hein, que là, on était au bord de la rupture. Et ça, c'est ce que je pense personnellement. On ne peut pas dire à quelques mois près quand ça va se produire, mais si ça continue comme ça continue, comme c'est actuellement, la rupture est pratiquement inévitable. C'est-à-dire que ça va péter avec des conséquences absolument dramatiques, enfin moi, de mon point de vue, qui risquent d'être non contrôlables et avec des effets terribles. Quoi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit en commençant, j'espère que vous ne partirez pas trop déprimé, mais il y a quand même des raisons d'espérer aussi. Voilà, c'est le message que j'ai essayé de vous faire passer. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et peut-être qu'on pourra discuter. Thank you.